Alors, Mathieu Vida, vous voulez perdre du poids?
Pas moi, non, pas spécialement en tout cas, mais peut-être que chez nos auditeurs c'est le cas, donc on a des conseils intéressants à leur donner. Voilà, à tout à l'heure Laetitia.
À tout à l'heure.
Et c'est vrai qu'à quelques semaines des vacances d'été, les rotatives de la presse magazine tournent à plein rendement en faisant leurs gros titres sur les nouveaux régimes à la mode. Et le succès est garanti pour ces méthodes miraculeuses qui sont malheureusement sans grand résultat, car le constat est sans appel. La plupart des régimes sont des impostures inefficaces et dangereux, et ils contribuent au contraire à dérégler l'organisme. Avec mes invités, donc, nous allons revenir sur les données scientifiques concernant les régimes amaigrissants. On vous explique quels sont les écueils à éviter absolument pour perdre vraiment du poids. Et puis on s'intéresse au rapport à la faim et à l'alimentation. Et j'attends vos questions et vos témoignages dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. La Commission européenne a dit non hier à l'initiative citoyenne Stop Vivisection et c'est à la une de la science. Aujourd'hui Axel Villard, bonjour à vous.
Bonjour Mathieu, oui, les millions de signataires du mouvement n'auront pas d'autre choix que d'attendre. La fin de l'expérimentation animale n'est pas venue, revenez en 2019, a répondu la Commission. On en parle dans un instant avec vos réactions sur Twitter, hashtag la TAC.
C'est Joseph Caraballona qui est aux commandes de l'émission, un dossier préparé par Lucie Sarfati et Thomas Delosier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La folie des régimes, c'est le sous-titre de notre tête au carré cet après-midi qui s'intéresse donc aux effets des méthodes pour maigrir et puis à notre rapport à cette sensation de faim. Pour en parler donc dans quelques minutes, je reçois le médecin pédiatre Marie Thirion, bonjour à vous.
Bonjour.
Et le neuropsychologue Michel Desmurgés, bonjour à vous.
Bonjour.
Michel Desmurgés, vous avez perdu vous-même 50 kilos à la suite de nombreux régimes et puis en étudiant la littérature scientifique, vous en êtes arrivé à la même conclusion parce que votre expérience a été assez longue en la matière. La plupart des régimes sont dangereux pour la santé?
En fait, j'ai envie de dire que j'ai pris 50 kilos avec tous les régimes que j'ai pu essayer. En fait, j'ai fait comme tout le monde, j'ai cherché un miracle et puis j'ai essayé tous les régimes du marché sans succès. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous ces régimes marchent bien. On perd 10 kilos, puis on en reprend 12. Et puis à un moment donné, j'ai essayé un ultime régime à la mode et j'ai commencé à avoir des problèmes de santé assez sévères. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une autre solution.
Et là,
donc,
en tant que scientifique aussi, ça vous a posé quelques questions quand même.
Ouais, j'ai été d'une naïveté totale comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et puis un jour, je me suis dit, il faudrait quand même aller voir ce qui se passe parce que j'ai quand même des collègues dans les institutions sanitaires internationales qui nous expliquent que ça marche pas, mais c'est des choses qu'on entend, mais qu'on veut pas vraiment entendre ou qu'on écoute sans vouloir les entendre. Et donc, oui, j'ai décidé d'aller me taper la littérature, si je peux dire comme ça, la littérature scientifique. Et c'est vraiment une littérature passionnante. C'est une littérature qui est extrêmement riche. Et je crois que les clés pour perdre du poids sont dans cette littérature. Et c'est ce que j'ai réussi à appliquer. Et puis surtout, je crois que cette littérature démontre, mais au-delà du moindre doute possible, que tous ces régimes sont juste inefficace et parfaitement dangereux.
Et là, vous nous dites maigrir pour de bon. Ben, on verra ça avec vous dans quelques instants. Marie Thirion, la faim, c'est intéressant d'en parler parce que c'est une sensation que j'ai tous depuis notre naissance et puis qui est assez difficile aussi à maîtriser. Qu'est-ce qui se joue derrière cette sensation de faim, alors?
Il se joue tout notre rapport à la vie, la façon dont nous avons été conditionnés dans l'enfance, la façon dont nous réagissons à notre environnement, la façon... En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas du tout l'intention de parler de régime. Je voulais comprendre pourquoi, quand on évolue beaucoup dans les soins aux nouveau-nés, la seule chose qui n'a pas changé pour moi dans ce que j'ai vu dans ma pratique en 40 ans, c'est la question des mères. Est-ce qu'il a encore faim? Est-ce qu'il n'a plus faim? Est-ce que tel intervalle est le bon? Il a bien mangé, mais un quart d'heure après, il se réveille. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la faim? Est-ce que c'est pas de la faim? Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une réponse à ça.
Oui.
Et en fait, après, je me suis dit, mais pour avoir une réponse, il faudrait d'abord que tu saches ce que c'est que toi. tu ressens comme faim. Qu'est-ce que c'est que la faim chez un adulte? Qu'est-ce que c'est chez toi? Donc je suis partie là-dessus. Mmh. Et obligatoirement, j'ai dérivé sur les rations alimentaires et les régimes, parce voilà. qu'on y arrive obligatoirement.
Et c'est intéressant, parce qu'on voit vraiment que cette question des régimes est directement liée, au fond, à cette sensation et à notre histoire depuis donc la prime enfance. On en parle avec vous dans quelques minutes, avec également Cécile Lestienne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho. Vous publiez dans votre dernier numéro Les bonnes feuilles, justement, du livre de Michel Desmurgés. On en discute avec vous dans quelques instants, puisque vous êtes le partenaire justement de cette Tête au Carré. Ils étaient plus d'un million en Europe à soutenir le mouvement Stop Vivisection.
La France détient malheureusement un triste record. Elle est le leader de l'expérimentation animale en Europe. Pourtant, on sait très bien qu'un animal n'est pas le modèle biologique de l'homme. C'est une faillite morale, c'est une pratique cruelle, car on pense que ne rien faire, c'est laisser faire.
Voilà, et la réponse de la Commission européenne à cette initiative citoyenne européenne contre l'expérimentation animale a été dévoilée hier et la réponse est ferme. Il n'y aura pas d'interdiction, en tout cas pas dans l'immédiat. Pour commenter donc cette décision, nous sommes en ligne avec un des acteurs de ce mouvement, Claude Reiss, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste et président de l'association Antidote Europe. Et puis également avec nous, Yvan Balanzard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vétérinaire, chargé de mission et responsable des formations expérimentation animale pour le CNRS. Claude Reiss, comment est-ce que vous réagissez à cette fin de non-recevoir de la Commission européenne? Ça ne vous surprend pas outre mesure, j'imagine?
Non, je ne suis pas du tout surpris. En fait, si vous voulez, déjà le titre Stop Vivisection était un encouragement à la Commission européenne pour faire la réponse qu'elle a faite. D'autre part, il y a l'aspect éthique, si vous voulez, qui est le point numéro un sur lequel insiste la réponse de la Commission européenne pour d'ailleurs préférer, d'après ce que j'ai lu, pour préférer qu'on épargne la vie des animaux aux dépens de la santé humaine. C'est-à-dire qu'on donne davantage de poids à l'expérimentation animale, enfin la protection des espèces animales par rapport à la santé humaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument évident. D'autre part, il faut voir que le déroulement de cette audition à Bruxelles, le 11 mai, était en fait non pas une audition comme c'était prévu, mais c'était en fait un débat contradictoire, dans lequel, d'une part, il n'y avait pas d'audition, donc un débat contradictoire. D'autre part, n'ont été convoqués devant la Commission que deux personnes, alors que moi, par exemple, je n'ai pas été convoqué. D'autre part, le temps de parole durant la discussion était très limité par le président de la séance, et donc on m'a coupé en plein milieu de mon exposé. Donc on ne peut pas dire que la Commission européenne a été informée de ce que nous avions proposé, ce que nous voulions dire.
Yvan Balanzard, la Commission donc n'a pas tenu compte de cette pétition, donc qui a réuni plus d'un million de signataires. C'est un peu gênant quand même, non?
Alors écoutez, d'abord moi j'aimerais revenir sur quelques chiffres. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un million de signataires, dont d'ailleurs plus de 700 000 en Italie, en Europe, hein, 700 000 en Italie. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui est important, c'est de revenir un petit peu sur les conclusions de la Commission. Donc effectivement, la Commission souligne que l'expérimentation animale reste importante pour protéger la santé des citoyens et des animaux, également, pour préserver l'environnement. Elle ne partage pas l'avis selon lequel des principes scientifiques invalideraient le modèle animal. Et là, c'est aussi quelque chose qui est important. Mais il y a un message qui, je crois, est encore plus important, c'est que elle estime que l'expérimentation animale ne constitue pas un obstacle à la mise au point d'autres techniques de recherche. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer de manière simpliste, comme le font M. Reiss, M. Benache et tous les abolitionnistes, il faut arrêter d'opposer l'expérimentation animale et les méthodes alternatives. Il faut rappeler que 70% du budget des laboratoires de recherche en France est alloué aux méthodes alternatives. Donc, je crois que c'est vraiment important de reposer les mots. Personne ne défend l'expérimentation animale. Nous, ce qu'on défend, c'est la recherche, c'est l'avancée de la recherche. Et encore une fois, c'est la compréhension des mécanismes biologiques qui va permettre justement la mise au point des méthodes alternatives. Donc c'est important de revenir là-dessus et arrêter cette vision manichéenne qui oppose le vice à la vertu, l'expérimentation animale aux méthodes alternatives. Ce sont des méthodes complémentaires qui sont omniprésentes dans tous nos laboratoires. Et si la Commission n'a pas donné suite à cette initiative, c'est aussi parce que le recours aux méthodes alternatives est une obligation de la directive européenne. On n'a pas le choix. S'il existe des méthodes substitutives, on est obligé d'y avoir recours. Donc, on ne procède pas à la recherche sur le modèle animal par choix. parce que d'abord il faut justifier le recours à l'animal à travers notamment les comités d'éthique, etc. Et s'il existe une méthode substitutive, on est obligé d'y avoir recours. Alors, qu'est-ce que vous voulez en plus, messieurs Reiss, messieurs Ménas et les abolitionnistes? C'est comme une interrogation.
Justement, Claude Reiss, la commission a annoncé vouloir à terme progressivement supprimer l'expérimentation. Le message n'est pas assez fort pour vous?
Écoutez, aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre. C'est démontré de façon absolument rigoureuse, comme 2 plus 2 font 4. Ce monsieur est en train de dire l'inverse. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, je voudrais attirer l'attention sur le fait que depuis 2000, nous avons suivi les statistiques de santé publique publiées en France par l'Institut National de Veille Sanitaire en particulier, et nous observons que nous avons un doublement du nombre de diabétiques, un facteur 7 pour l'augmentation des cancers de la prostate, un facteur presque 2 pour l'augmentation des Alzheimer dans ce front, un facteur 50 pour l'augmentation des autismes. La fertilité masculine est en train de tomber à zéro à partir de 2027 si nous extrapolons les chiffres que nous avons depuis 2000 jusqu'en 2009. Tout ceci, il faut voir que c'est la responsabilité des produits chimiques qui sont autour de nous qui sont responsables de tout ça.
Quel est le lien avec l'expérimentation?
On teste actuellement les produits chimiques sur des rongeurs. Nom d'un chien, nous ne sommes pas des rongeurs de 75 kilos.
Ils sont testés sur les rongeurs et ensuite, en tout cas pour certains produits, sont testés aussi sur d'autres modèles.
Il n'y a pas de modèle. Le seul modèle pour l'homme, c'est l'homme. Il faut bien vous mettre ça dans la tête. Et c'est une démonstration absolument rigoureuse qui vous permet qui me permet de dire ça. Alors, si vous dites le contraire, prouvez-le. Prouvez que j'ai tort.
Claude Reiss, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à Axel Villard. La Commission européenne va supprimer à terme, c'est ce qu'il souhaite, en tout cas, l'expérimentation animale. Donc, c'est quand même un message intéressant pour vous, non?
Oui, non, mais attendez. Depuis 1953 ou 55, la Commission européenne cavale sur les trois R, les fameuses réduire, remplacer et raffiner en fait en anglais, l'expérimentation sur les animaux. Ça fait maintenant 50 ans, plus de 50 ans qu'ils le font, et ils continuent. Le rapport de la commission après notre audition est exactement dans ce sens-là. Ils nous promettent pour 2018 ou 2019 une modification de tout ça, éventuellement.
Yvan Balanzard, vous souhaitiez répondre à Claude Reiss pour terminer.
Oui, alors très rapidement, d'abord, sur la réglementation, la règle des 3 R, effectivement, a été édictée en 1959 par Russell et Birch, mais la première directive européenne sur l'expérimentation animale date de 1986. Juste pour donner un chiffre, depuis 1984, le nombre d'animaux utilisés a baissé de plus de moitié en France, hein, plus de 50% d'animaux en moins. Mmh. Ensuite, je ne vais pas revenir sur la concordance et la relevance des modèles, parce que bon, ce serait un débat assez long, mais pour vous donner juste ce que disait M. Reiss par rapport au nombre de cancers qui a doublé depuis les années 80, il serait intéressant de noter que le nombre de malades, et le nombre de morts, est resté constant, ce qui veut dire qu'il y a eu des progrès significatifs de traitements qui ont été mis au point justement chez l'animal, qui sont donc deux fois plus efficaces, hein, pour prendre juste l'exemple des cancers. Donc si vous voulez, il faut, quand on cherche à argumenter, je crois qu'il faut le faire de manière sereine. Là, encore une fois, la directive européenne place et a pour ambition, comme vous l'avez souligné, à terme, de ne plus avoir recours au modèle animal lorsque scientifiquement ce sera possible. Elle impose le recours aux méthodes alternatives et il faut toujours garder en tête que ces méthodes alternatives, ce sont nous, ce sont les chercheurs qui les mettons au point. Et donc, elles ne tombent pas des arbres, ces méthodes alternatives. Elles proviennent, alors l'exemple par exemple, je vous citerai la poire artificielle ou plein d'autres exemples justement de méthodes alternatives qui sont issues de l'expérimentation animale. Et interdire la recherche sur le modèle animal, c'est finalement scier la branche sur laquelle on est assis. Donc ça n'a pas de cohérence et je pense que là-dessus, la commission a eu une conclusion qui est raisonnée, mais qui, et là encore c'est important, impose un niveau élevé de protection pour les animaux qui doivent encore être utilisés dans le cadre de projets scientifiques.
Allez, on termine là-dessus, Yvan Balanzard et Claude Reiss, parce que c'est un débat toujours aussi épineux et compliqué à avoir. J'invite d'ailleurs les auditeurs à réécouter une émission qu'on avait consacrée à ce sujet les archives de la Tête au Carré qui nous avait valu, je crois, notre record de messages.
Vous pouvez encore faire gonfler les chiffres du podcast.
Absolument, en l'écoutant en tout cas sur franceinter.fr. Et puis, pour vous rappeler que depuis hier, donc la Commission européenne s'est exprimée et a dit qu'elle allait poursuivre, donc permettre la poursuite de l'expérimentation animale. Merci beaucoup Claude Reiss et Yvan Balanzard. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, la NASA qui teste aujourd'hui le plus grand parachute du monde au-dessus de l'océan Pacifique. Sa mission à terme sera de faire atterrir en douceur les vaisseaux spatiaux sur la planète Mars. Pour effectuer le test, l'engin ressemblant à une soucoupe volante sera lâché depuis la limite supérieure de la stratosphère. L'an dernier, lors d'un premier test, le parachute s'était littéralement déchiqueté pendant le déploiement. Il a donc été retravaillé pour supporter de telles forces. Verdict en fin d'après-midi. Dans une interview pour la BBC, Stephen Hawking révèle qu'il pense au suicide assisté, mais rassurez-vous, ça n'est pas pour tout de suite. L'astrophysicien de 73 ans estime avoir encore beaucoup de travail, mais avoue cependant qu'il réfléchira au suicide assisté lorsqu'il n'aura plus rien à apporter à la science. Ce sont ses propos. Selon lui, garder quelqu'un vivant contre sa volonté constitue l'affront ultime. Et puis on connaît maintenant le gagnant de la finale de ma thèse en 180 secondes qui se tenait donc hier à Nancy. Félicitations à Alexandre Artaud qui a raflé le prix du public ainsi que le premier prix du jury. Avec sa thèse sur la spectroscopie tunnel à très basse température de graphène sur rhénium supraconducteur, Alexandre est qualifié pour la finale internationale à Paris le 1er octobre et vous pouvez retrouver sa très brillante performance en vidéo. Elle est en lien sur la page Facebook de la Tête au Carré avec également les deux autres lauréats. L'anti-régime, c'est le dossier d'émission dans un instant. Alabama Shake sur France Inter.
Les gars, vous faites vraiment pas gaffe, vous avez grossi.
Non mais ça va, c'est bon, on a pris un peu, mais demain on perd tout là.
Bah, quand vous voulez, on perd 10 kilos. Hein.
8.
Ah, 5.
5.
5 kilos.
Sûr.
En un mois, on perd 5 kilos.
5.
Ok.
Saucisson ? Ouais.
Ok, lundi.
Régime,
ok.
Demain.
Ok, on est demain.
Ouais, mais fait pas beau là.
Genre, on va être mouillé.
Ah ouais, pas le moral.
Ok, demain, régime.
Demain, régime.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Les régimes et la sensation de faim, c'est donc le dossier de la tête au carré. Mes invités pour en parler, Michel Desmurgés, vous êtes docteur en neuropsychologie et chercheur à l'INSERM. Et donc, vous publiez l'anti-régime Maigrir pour de bon aux éditions Belin. Marie Thirion, vous êtes médecin pédiatre et vous êtes l'auteur d'un livre qui lui était sorti en 2013 chez Albin Michel, Pourquoi j'ai faim. Et puis, Cécile Estienne, vous êtes directrice de la rédaction de Cerveau et Psycho. Et donc, vous publiez les bonnes feuilles dans le nouveau numéro de Cerveau et Psycho sur le livre, justement, de Michel Desmurgés.
Absolument, enfin, je dirais que c'est une question un peu de cohérence, j'allais dire, parce qu'en fait, Michel est un auteur de Cerveau et Psycho, et oui. il avait eu la gentillesse de nous envoyer son manuscrit. Et j'avoue que je l'avais trouvé assez formidable, d'une part parce que c'est un travail très sérieux, très documenté, argumenté, évidemment, mais aussi, j'avoue, parce qu'il était très bien écrit, très accessible, je pense, à tout le monde, et que c'était donc un plus. Et donc, nous avons fait les entremetteurs, si je peux dire, avec les éditions Belin. Et du coup, pour le dernier numéro de Cerveau et Psycho, j'ai choisi quelques extraits de ce livre, parmi ceux qui m'intéressaient le plus, j'avoue, notamment ceux qui expliquent un peu le fonctionnement du cerveau et pourquoi, après un régime très drastique, le cerveau se transforme en machine affamée et vous force à manger. Et c'est pour ça que vous grossissez plus que ce que vous avez perdu. Et aussi tout ce qu'il peut raconter, toutes les expériences qu'il explicite sur comment on peut tromper son cerveau aussi.
C'est ça, pour réussir à maigrir vraiment.
Sans qu'il s'en aperçoive.
C'est ça. Michel Desmurgés, donc c'est votre expérience que vous racontez dans ce livre. Vous avez donc décidé d'étudier les effets de nombreux régimes amaigrissants sur l'organisme. Et c'est un long parcours du combattant, visiblement. Et le fait d'être neuroscientifique et de comprendre ce qui se passe dans le cerveau, ça a été visiblement, incontestablement un plus pour vous, pour perdre du poids ?
Oui, je pense que ça m'a aidé et l'idée de ce bouquin, c'est que ça pourrait aussi aider les gens. C'est-à-dire qu'on entend partout les régimes, ça marche pas, ça fait des années, des dizaines d'années, les régimes, ça marche pas, les régimes, c'est dangereux, vous allez reprendre autant de poids, et puis tout un tas d'arguments qui vous disent si vous mangez des protéines, vous grossirez pas, passez pas métabolisé, etc. Et à un moment donné, moi j'ai eu besoin de comprendre en me disant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a dans la littérature scientifique des éléments qui permettent de corroborer ? Parce qu'on a d'un côté les institutions sanitaires internationales, les chercheurs, les gens qui travaillent sur cette problématique dans les labos de recherche, qui vous disent surtout pas. Et de l'autre côté, vous avez tout un tas de revues ou de médias qui viennent, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais servir la soupe à ces vendeurs de régimes qui viennent nous expliquer qu'ils ont trouvé la martingale, que c'est extraordinaire, oui. que les chercheurs, que du coup on appelle les affameurs de rats, n'ont rien compris et que vraiment ils sont encore à un statut du savoir préhistorique. Et donc je suis allé pour comprendre. Une fois qu'on a compris pourquoi ça ne marche pas, une fois qu'on a compris ce qui peut marcher, je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement à mettre en place les choses. Parce que c'est plus une question de « moi je pense que ça marche et toi tu penses que ça marche pas ». Après, j'ai des preuves évidentes qui montrent que ça marche ou que ça marche pas, mais au moins je sais à quoi m'en tenir.
Et puis c'est l'expérience, parce qu'évidemment vous l'avez éprouvé sur vous-même. Et ce qui compte finalement dans un régime, c'est sa durabilité, parce que c'est toujours le problème. On perd toujours du poids en faisant un régime, enfin très souvent en tous les cas. Le plus compliqué, c'est de maintenir cette perte de poids sur le terme, sur le long terme.
Oui, c'est-à-dire que tous les régimes fonctionnent, indépendamment de leurs préconisations. Mmh. Ah, ils fonctionnent pas pour les raisons qu'on nous avance. Un régime hyperprotéiné, il fonctionne pas parce que vous mangez plus de protéines. Ça a été testé dans des dizaines d'études chez l'homme et l'animal. Quand vous gardez constant le compte calorique, et c'est un point important, vous pouvez mettre 10% ou 90% de protéines dans le régime. À l'arrivée, c'est exactement la même chose. Il marche parce que des choses aussi bêtes que se peser tous les jours, ou des choses aussi simples que faire attention à ce qu'on mange, ou être obligé de choisir ses aliments dans une liste restreinte, ou dans une liste monotone a fortiori, fait que le compte calorique va tomber et vous allez perdre du poids. Et tous ces régimes fonctionnent, mais ils fonctionnent 3 mois. Oui. Et après, c'est une mécanique horlogère digne de nos amis suisses. Ça se retourne et le poids remonte. Et on a des prévalences de reprise de poids qui sont proches de 100% dans tous ces régimes-là.
Oui.
Et ça a été testé. C'est des centaines de milliers d'individus. C'est des méta-analyses de millions de gens.
C'est l'INSERM qui avait fait une publication aussi sur cette question.
C'est l'ANSES qui avait fait
qui en arrive à la même conclusion. C'est-à-dire qu'effectivement, on perd toujours du poids et on regagne les kilos. Voire, Marie Thirion, on en gagne encore plus ensuite, après avoir fait un régime.
Moi, je n'ai pas travaillé sur les régimes, je ne suis pas du tout chercheur. Mais par contre, dans ce que j'étais en train d'écrire, je suis allée me promener sur les sites de coaching. Et je me suis inscrite pour voir d'abord qu'est-ce qu'était le soi-disant accompagnement des gens qui veulent maigrir.
Oui.
Et puis, sur les forums, qu'est-ce qui se disait ? Et ce qui m'a le plus stupéfiée, c'est le nombre de gens qui disent « J'ai perdu 10 kilos, ça marchait bien, mais j'ai eu tel drame familial, j'en ai repris 15, donc maintenant, ça y est, je vais mieux, je recommence. » Et je recommence, et puis c'est la quatrième fois, la cinquième fois, j'y crois toujours, je veux y retourner. Je suis sûre que ça va marcher, puisque ça a déjà marché.
Alors, comment est-ce que vous expliquez cette croyance ? Parce qu'on peut quasiment parler de croyance avec cette problématique des régimes. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les messages sanitaires sont assez clairs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas véritablement à perdre du poids sur le long terme. Au contraire, on gagne encore plus de poids et c'est dangereux pour la santé. Mais personne ne veut entendre ce message-là. Pourquoi ?
À mon avis, dans ce qu'on appelle le coaching, ou même la façon dont les livres sont rédigés la plupart du temps, il y a un véritable discours gouroutique. C'est pas très français, mais je le dis.
C'est joli, on aime bien. Oui, oui. Le discours gouroutique, on va le garder.
C'est-à-dire
oui.
qu'il y a une véritable emprise sur les idées avec quelqu'un qui vous dit « Je vais vous conduire vers votre amaigrissement. C'est moi qui tiens, je suis votre force. » D'ailleurs, dans le site du camp, tous les jours, on vous dit « Remplissez bien votre questionnaire quotidien parce que c'est ça qui fait ma force, donc la vôtre. » C'est écrit texto, tous les jours. Si vous remplissez pas votre compte-rendu, Monsieur Ducamp, qui est en fait un vague ordinateur qui blablate en fonction de ce que vous avez coché, vous dit que il peut plus faire son boulot. Et à toutes les pages, il y a « je suis, reste et resterai avec vous ».
C'est de l'hypnose, hein ?
C'est de l'hypnose,
hein, c'est ça, au
mais c'est sidérant.
Michel Demurger.
Je crois que les gens font une erreur, on est induit dans cette erreur, ils pensent que perdre du poids, c'est une question de volonté. Et au début, oui, c'est une question de volonté. Il y a des études qui montrent, qui permettent de quantifier la volonté, l'autodiscipline, ce que vous voulez. C'est très corrélé, par exemple, à la réussite scolaire. Mmh. La corrélation avec la réussite de ces compétences de volonté, ces compétences volontaires et d'autodiscipline et de faire ce qu'on veut faire volontairement, elle est nulle avec la réussite d'un régime, quasiment nulle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout une question de volonté. Les gens se disent, moi, je suis suffisamment volontaire, les autres, ils ont raté, mais moi, je vais réussir parce que moi, j'ai de la volonté. Et à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il est génétiquement câblé pour restaurer systématiquement ses réserves de graisse. Et si vous touchez les réserves de graisse et si vous touchez les réserves pondérales du corps, le corps, il va se défendre, mais il va se défendre à un niveau tel que la ligne Maginot va sembler être une aimable taquinerie pour enfants du primaire. C'est-à-dire que tout va se mettre en place au niveau corporel pour vous faire reprendre du poids. Et vous avez beau avoir une volonté de faire, vous ne pouvez pas lutter contre des mécanismes physiologiques. Alors, ces mécanismes, ils sont hormonaux. C'est-à-dire, tout le système hormonal va se dérégler dans le sens de vous percevrez mal la satiété et puis vous aurez vraiment une exacerbation des sensations de faim. Mmh. Le système, le corps au niveau périphérique, au niveau musculaire, par exemple, va optimiser son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va faire... Il va faire beaucoup plus avec moins. C'est-à-dire qu'après un régime, si j'ai un jumeau, si je fais 70 kilos, que j'ai perdu, que je reviens de 100 kilos, que j'ai fait un régime, par rapport à mon jumeau qui a toujours été à ce poids, je vais consommer chaque jour 300-400 calories de moins parce que tout le système va être optimisé. Au niveau de l'estomac, on a des capteurs d'extension qui nous disent si on est plein, qui renseignent la satiété. Ceux-là, ils sont inhibés, ils renvoient plus leurs signaux. Au niveau cérébral, le système de récompense va s'activer d'une façon absolument énorme en présence d'aliments. Et le système qui nous permet d'inhiber nos réponses va, lui, se désactiver. Et tous ces mécanismes-là, une fois qu'ils sont mis en marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et ce qui est intéressant, et j'ai fini là, c'est qu'il y a 3 à 4% des gens qui y arrivent. Et ces gens, ils ont des caractéristiques particulières. Et une caractéristique particulière de ces gens-là, c'est que quand il y a moyen de voir si ces systèmes de défense se sont activés, notamment au niveau de l'optimisation du fonctionnement métabolique, ces gens-là ont eu un régime qui était suffisamment pertinent pour ne pas déclencher ces mécanismes-là. Une fois qu'ils sont déclenchés, vous pouvez toujours, comme le poisson, bouger au bout du fil et remuer la queue. Ça ne marche plus, c'est perdu. Et ça se déclenche entre 3 et 6 mois.
Cécile Lestienne.
Oui, pour rebondir sur cette histoire de volonté, il faut aussi avouer que résister, c'est absolument épuisant. D'ailleurs, vous citez une étude que j'avais trouvée très très intéressante où on avait demandé à on avait mis devant des cobayes humains un bol avec des chocolats et un bol avec des radis. Certains avaient le droit de manger ce qu'ils voulaient, dont les chocolats, et d'autres avaient le droit de manger que les radis. Et puis juste après, on leur a demandé de faire un exercice intellectuel un petit peu difficile. Et ceux qui avaient eu le droit de manger le chocolat avaient tenu 19 minutes avant de déclarer forfait, parce que le truc était très difficile à faire. Et ceux qui avaient passé beaucoup de temps à résister et n'avaient mangé que des radis, on les lâchait prise au bout de 8 minutes.
Donc ce temps différent montre bien la façon dont on réagit face à...
Aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les jours, on est obligé de tous les jours de faire très attention et de se restreindre surtout, sans mettre en place... des choses qui nous permettent de tromper notre cerveau, est tellement épuisant qu'au bout d'un moment, effectivement, la volonté lâche.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous, des questions et des témoignages. Et je vous les transmets dans un instant, juste après ce petit tour par la discothèque de U2. You can reach, and you can grab it. You can hold it, control it, no. You can't bag it. You can push, but you can't direct it. Circulate, regulate. Discothèque et c'est U2 sur France Inter.
Tout est fait dans votre organisme pour vous empêcher de perdre du poids. D'ailleurs, un monsieur m'a dit qu'avec le régime du camp, il avait perdu 40 kilos en 3 mois. Est-ce que c'est normal? Bien évidemment, la réponse en tant que médecin, je vous réponds que ce n'est pas normal. C'est antiphysiologique. Qui croire? Est-ce que je crois Pierre Ducamp parce que j'arrive à perdre à toute allure? Ou est-ce que je crois le programme national nutrition santé qui me dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes différents par jour? Est-ce que je crois David Schreiber qui disait qu'il fallait manger ça aussi? Qui est-ce que je dois croire? Je sais pas. Ben, je vais croire celui qui vend le plus de bouquins, tiens.
Voilà, et c'est Arnaud Calco qui est nutritionniste et qui s'exprimait dans un documentaire à la télévision qui s'appelait « Les régimes, la vérité qui dérange ». Mes invités justement pour en parler cet après-midi, Michel Desmurgés, donc neuropsychologue avec ce livre « L'anti-régime » aux éditions Belin, « Maigrir pour de bon », le sous-titre un peu racoleur quand même, non ? Est-ce que vous ne cédez pas à la tentation de ces titres qu'on voit fleurir à longueur de temps chez les libraires ?
Le titre, ça a été une vraie discussion avec l'éditeur. Je pense pas, parce que...
C'est le sous-titre dont je
parle. C'est le sous-titre, hein. Oui, tout
Maigrir
à fait.
Maigrir pour de bon.
Oui, le sous-titre aussi a été largement discuté. Parce que je pense que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Le système, il n'est pas parfait. Donc c'est possible... Le système est trompé dans le sens d'une prise de poids et on peut tromper le système dans le sens d'une perte de poids. La seule chose à faire, c'est surtout de ne pas rentrer dans ces régimes-là.
Marie Thirion, vous êtes donc médecin pédiatre. Un autre livre, Pourquoi j'ai faim, aux éditions de Michel. Vous avez lu le livre de Michel Desmurgés. Et vous a intéressé ?
Ah oui, beaucoup.
Oui.
Beaucoup, parce que après avoir publié le mien, j'ai eu plein de réponses de gens. Plein de messages de gens qui me disaient « J'ai bien lu, mais j'ai 30 ou 40 ou 20 kilos de trop, maintenant je fais quoi ?» Alors que j'avais dit « La seule solution, c'est de ralentir les stimulations, c'est de ralentir les émotions, ce qui est finalement beaucoup trop vague comme aide. » Et dans le livre de Desmurgés, moi j'ai trouvé trois choses extrêmement utiles, à condition de savoir compter. Et je dis que
jusqu'à
même
3,
moi,
ça devrait aller, non ?
Il y a des moments où j'ai repris ma calculette plusieurs fois. Il apprend à compter les besoins énergétiques en fonction de l'âge, du poids, de la taille, de l'activité physique. Et ça, c'est fondamental. Il reprend des tables qui existaient, mais il nous les amène de façon très claire. La deuxième chose, c'est qu'il donne des courbes de modélisation de la vitesse de perte de poids possible, avec comme message à toutes les lignes ou presque... Lentement,
voilà,
lentement,
toujours.
Lentement, toute petite baisse, parce que si vous dépassez les systèmes de défense du corps, ça va réagir, il faut être en deçà des besoins énergétiques auxquels l'organisme va réagir. Et puis, il explique très très bien quelque chose que je n'avais jamais vu sur les sites de coaching, c'est de faire des moyennes de pesée. Se peser, oui, mais surtout pas l'interpréter au jour le jour. Surtout pas. Oui. Et ça, c'est fondamental.
Mais vous dites qu'il faut se peser tous les jours quand même, Michel Desmurgés.
Oui, mais pour faire une moyenne.
Ouais.
Alors, il faut se peser au jour... Alors, il y a plein d'études qui montrent que plus les gens se pèsent fréquemment, et les gens qui se pèsent quotidiennement, ils perdent plus de poids que les autres.
Ah bon ?
Et surtout, ils en prennent moins sur la durée.
D'accord.
Il faut se peser pour pouvoir... Parce que pour avoir une idée de l'évolution du poids, il faut effectivement le moyenner, parce qu'il y a des fluctuations d'un jour à l'autre. Et puis, je dirais que la pesée quotidienne, elle est aussi un peu malhonnête. Au sens où, quand vous avez fait un excès la veille ou quand vous avez fait un excès le jour même, ben vous allez rapidement... Alors, ce n'est pas des choses qui vont être pérennes, vous allez le reperdre, mais elles vous alertent. C'est-à-dire que la pesée quotidienne vous permet de rester vigilant. Et contrairement à ce qu'on a pensé ou dit longtemps, ce qui n'était pas forcément idiot, il y a plein d'études qui ont montré que la pesée quotidienne n'avait aucun effet émotionnel négatif en termes d'obsession, de focalisation, etc. Et c'est vraiment une aide... importante. Mmh. Et pour vraiment faire un régime et pour être sûr qu'on ne sort pas des clous, il faut avoir une idée de l'évolution du poids. Et la seule façon d'avoir une idée de l'évolution du poids, comme le système est fluctuant, c'est de moyenner les pesées sur 10 ou 15 jours.
Marie Thirion, Jacques sur franceinter.fr nous dit, est-ce que les émotions sont essentielles justement dans l'engagement d'un régime et est-ce que l'on perd forcément le plaisir lorsqu'on entame ce type de projet ?
Alors on ne perd sûrement pas le plaisir si on sait ce qu'on va chercher, comment on va le chercher, et surtout, quels autres plaisirs de compensation on va installer. Quand j'ai lu le livre de Desmurgés, je me suis dit, mais finalement, quel affamé était-il ? Puisque je situe un certain nombre de façons d'avoir faim.
Il y a plusieurs fins pour vous.
Il y a plusieurs fins, oui, il y a plusieurs modalités qui nous poussent à aller manger. Et je me suis dit, en fait, pendant 3 ans, il s'est nourri, pour ne pas dire il s'est shooté, aux articles scientifiques. Quand on regarde sa littérature, on voit qu'il se nourrissait de ça, qu'il se délectait de ça.
Ouais.
Si on regarde les 1200 articles de sa bibliothèque, ça veut dire qu'il a lu au moins 3 fois ça. Ça représente chaque jour une bonne ration.
C'est vrai.
De plaisir.
C'est très bien référencé d'ailleurs, voilà. Il faut le souligner.
Donc, je me suis dit, je pense que sa capacité
sa compensation
à lui peut avoir été tenu par ça.
Ouais.
Alors que pour Madame Tout-le-Monde, compter des calories, rentrer dans l'idée d'une restriction, se peser et ne pas voir les différences aussi vite qu'elle le voudrait, je crois que ça peut être extrêmement difficile et donc sans plaisir. Et donc, ça va faire craquer. Il faut avoir quelque chose d'autre qui vous nourrit pendant ce temps-là.
Alors, démurger, répondez, justement. Est-ce que c'est la littérature scientifique qui vous a nourri ?
Bon, elle m'a passionné, nourri, je ne sais pas, mais elle m'a passionné. Et elle m'a passionné parce qu'elle m'a surtout offert une solution à mon problème de poids, parce qu'on a beau dire, c'est... certains le vivent très bien, mais au quotidien, c'est parfois difficile. Ouais.
Mais c'est vrai ce que dit Marie Taillon, c'est peut-être ce qui fait votre singularité aussi, le succès de votre entreprise dans cette perte de poids, non ?
Non, alors je crois que ce qui a fait le succès de l'entreprise, c'est que shooté à la littérature, au moment où j'ai commencé, j'étais sûr que ça allait marcher. Je crois que c'est ça qui a fait le succès. J'avais pas de doute quant à l'arrivée, donc ça m'a permis d'être patient. J'ai compris assez vite que la patience, c'était vraiment pas une option. C'est soit j'étais patient, soit je réussissais en 2 ans ou 3 ans, soit je me plantais en 3 mois. Donc j'ai choisi de réussir en 3 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas vraiment... On parle de restriction, mais tous les aliments sont permis. Je veux dire, à partir du moment où vous comptez en termes énergétiques, pour perdre 25 kilos, il suffit de virer l'équivalent d'un croissant au beurre chaque jour. Donc
Mais 25 kilos sur le long terme.
Ah oui, sur le long
d'accord.
terme. C'est-à-dire que vous allez... Quelqu'un qui vous dit dans un régime, vous allez perdre 25 kilos en 3 mois, fermez le bouquin, et puis... Il vaut mieux ne pas faire de régime que de faire un mauvais régime parce que on n'a pas assez souligné, mais ces régimes-là sont dangereux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il a une marge d'erreur. Brian Wenzing appelle ça très joliment la marge subliminale. C'est-à-dire que le corps, il n'est pas capable d'apprécier les entrées et les sorties caloriques précisément. Si vous restez dans cette marge d'erreur, si vous lui enlevez en gros 10 ou 20% des entrées ou des sorties, en augmentant les sorties, il ne va pas le voir. Et s'il ne le voit pas, et c'est vrai de tous les systèmes de contrôle biologique, quand vous tapez doucement dans les réserves de graisse, le corps ne le voit pas. S'il ne le voit pas, il ne se défend pas. S'il ne se défend pas, les défenses métaboliques ne se mettent pas en jeu. Et si les défenses métaboliques ne se mettent pas en jeu, vous avez gagné. Le seul vrai danger d'un régime, ce n'est pas de perdre trop lentement. Il n'y a pas de danger à perdre trop lentement. Le seul vrai danger, c'est à perdre trop vite. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes content parce que vous deviez perdre... Il y a des cours où vous devez perdre 500 grammes et puis vous avez perdu 2 kilos et vous êtes content. Et vous signez votre arrêt de mort. Parce qu'à partir du moment où vous tapez trop dans les réserves, le corps il se réveille et ça passe plus à l'as. Et
donc, quand
ça
passe plus à l'as... Donc il faut être plus malin que son cerveau en fait aussi, c'est ça. Hein,
ah mais un cerveau, c'est une mécanique extraordinaire.
Ben mais parfois, c'est ça qui est difficile.
C'est bête à manger du foin hein, parfois un cerveau. C'est-à-dire qu'on peut vraiment à partir de les mécanismes qui nous font prendre doucement du poids, on peut les retourner et s'en servir pour perdre doucement du poids.
Cécile Estienne.
Oui, d'ailleurs, vous expliquez assez bien que le cerveau réfléchit plus en volume qu'en densité calorique. Enfin, il apprécie plus le volume que la densité calorique. Donc, je ne vais pas dire qu'il estime qu'une assiette de salade, c'est la même chose qu'une assiette de frites, mais c'est un peu ça, je crois. Et du coup, vous donnez des astuces pour tromper le cerveau sans qu'il s'en aperçoive.
Le cerveau est incapable d'estimer la quantité énergétique que vous avez mangée. Donc, il a des indicateurs indirects. Il a le volume, il a le temps que vous mettez à manger, il a la taille des assiettes, il a la mémoire du repas précédent, il a des effets sur la... Dans un repas, imaginez que je vous donne un bol de M&M's. C'est idiot, un bol de M&M's.
Non, c'est pas idiot.
Et
non.
Dans un bol de M&M's, vous avez 6 couleurs de M&M's ou vous en avez 12. Et bien, quand vous en avez 12... Le cerveau, il va leur tout goûter, mais c'est complètement inconscient et vous allez en manger 2 fois plus.
Voilà.
Si je vous fais des lasagnes aux champignons et si je vous fais des lasagnes à la viande, quand vous demandez aux gens après, les deux ont le même goût, les gens ont la même satiété, ils en mangent autant et pourtant vous avez coupé 200 calories. Si je vous mets un grand bol de pop-corn ou un petit bol de pop-corn, dans le petit, vous allez en manger 2 fois moins. Donc il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui font que... Le cerveau, on ne mange pas souvent sur des mécanismes volontaires, on mange sur des mécanismes qui sont des apprentissages, des automatismes. Le cerveau est biaisé sur des mécanismes de priming, etc. Mangez devant la télé et vous mangerez 30% de plus. Juste ça. Moi, le matin, quand je prenais mon petit déjeuner en lisant le journal, je mangeais plus de 1000 calories au petit déjeuner. Quand je le prenais sans le journal, j'en mangeais 250. C'est des mécanismes qui sont ancrés dans le cerveau. Et, et, Et quand on n'est pas conscient de ce qu'on mange, on mange encore plus au repas suivant et plus tôt. Donc il y a tout un tas de mécanismes comme ça, mais on peut tromper la mécanique.
Bon, et c'est ça qui est passionnant, effectivement, c'est de comprendre un petit peu ces ruses du cerveau pour les déjouer. Et puis on va vous retrouver dans un instant pour nous dire exactement comment vous avez fait pour perdre autant de kilos, avec la discussion qui se poursuit et les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
Malin qui monte au ciel, qui plane et qui pique au-dessus des royaumes et des républiques. L'oiseau malin regarde et voit les monarques et leurs secrets qui lancent dans les palais d'État les ordonnances et les décrets. Master and servant de leur salon protégé, n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger. Or prenez garde à ceux qui n'ont rien, qu'on a laissé au bord du chemin, rêveurs. Dans leur mystère, qui joue sur les écrans plasma, l'on a l'argent que tant de gens espèrent. Masters and servants de leur bureau protégé, n'entendent pas l'oiseau qui chante, n'entendent pas l'oiseau chanter, pressentant comme un danger.
L'oiseau malin, Souchon et Voulzy sur France Inter.
Ceci est un neurolaser. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celle de la mémoire.
Et qui êtes-vous ?
Rien de plus qu'un fragment de votre imagination.
Sur France Inter.
Michel Desmurgés, l'anti-régime aux éditions Belin, la vérité scientifique sur les dangers des régimes miracles et comment réussir à maigrir durablement. Donc c'est 3 ans de boulot hein, quand même, hein, quasiment.
À l'écriture du bouquin.
Non, pour perdre du poids.
Ah, pour perdre du poids, oui. Pour perdre du poids, c'est pour arriver, pour perdre 50 kilos, ouais, c'est ouais. Un peu plus de 3 ans de boulot. Ouais.
Marie Thérion, pourquoi j'ai faim aux éditions Albin Michel, justement, qu'est-ce qui se passe lorsque nous avons faim? On parlait des racines de l'enfance tout à l'heure. Il y a une notion de manque aussi, hein, dont vous parlez beaucoup.
Alors, je crois que la faim chez le nouveau-né n'existe pas, probablement pas, avec des signaux biologiques précis. Le bébé, il arrive d'un univers où il y avait une alimentation absolument continue. Mmh. Et si on regarde les différents mécanismes de déclenchement de l'appel alimentaire chez nous, a priori, il n'existe pas chez lui. Je dis bien a priori, peut-être qu'on va les trouver dans quelques années. Mmh. Mais pour l'instant, tel qu'on le sait, il n'y a pas. Par contre, ce que tout le monde connaît bien maintenant, c'est ce que les chercheurs appellent le cri de détresse à la séparation. C'est-à-dire que lorsqu'un petit de n'importe quel mammifère se réveille et qu'il est seul, que sa mère n'est pas là, ou qu'un adulte n'est pas là, il se met dans un état immédiat de panique extrêmement intense. Et que lorsqu'un bébé pleure parce qu'il se réveille et qu'il est seul, je crois que d'abord et avant tout, il est dans une panique de solitude. Il se trouve que l'adulte qui est là, qui arrive et qui va s'occuper de lui, va le nourrir. Alors le nourrir avec des intervalles qu'il va lui imposer, comme ça a été longtemps fait, ou va le nourrir à gogo, comme ça se fait de plus en plus maintenant, mais il va le nourrir. Et petit à petit, cette peur de l'absence de l'autre va se réguler par « quand l'autre vient, il me nourrit, quand l'autre vient, il apporte tout ce dont j'ai besoin », c'est-à-dire ses bras, sa chaleur, sa présence, son regard et l'aliment. Mmh. C'est tout ça chez un tout petit.
Et justement, vous dites bien que la faim, alors une fois adulte aussi, vient de cette peur du manque ou du trop-plein en tout cas, et que ces émotions font appel à celles qu'on éprouvait lorsqu'on était enfant, c'est ça? On peut vraiment tisser un lien entre tout cela?
Je pense qu'il y a celles qu'on éprouvait quand on était enfant, mais il y a aussi celles que nos mères éprouvaient lorsqu'on était enfant. Il y a toujours dans l'imaginaire de énormément de femmes et de mères, la peur que l'enfant manque, et que la peur que l'enfant manque, la peur qu'il puisse en mourir, qu'il puisse aller mal, est très importante. Desmurger parle de sa femme qui a le gène de l'alimentation, de la mère nourricière. Oui, oui, ça existe. Et la peur que l'enfant manque, c'est extrêmement ancré dans l'imaginaire de beaucoup, beaucoup de mères. Et donc, elle induit cette peur chez l'enfant. Si la mère a peur qu'il manque, lui, il comprend qu'il pourrait manquer.
Alors, Michel Desmurger, pour maigrir pour de bon, d'abord ce message de Lico, j'essaye de perdre du poids, dit-il ou dit-elle, en augmentant mes dépenses énergétiques, je fais du vélo en montant des côtes régulièrement une heure par jour, est-ce que c'est bon pour la santé? L'exercice physique, ça va aussi de pair quand même avec cet effort sur l'alimentation.
Alors, il y a deux pieds pour perdre du poids, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas excéder, on l'a dit, un certain déficit, sinon le corps s'en aperçoit. Le premier pied, c'est l'alimentation, vous pouvez diminuer un peu l'alimentation. Et le deuxième pied, évidemment, c'est l'exercice physique. Alors, il n'y a pas besoin de monter un vélo, enfin, il n'y a pas besoin de... Alors, c'est bien si on peut faire du vélo tous les jours et faire un exercice un peu intense, mais il suffit de marcher. Je prends un exemple tout bête. Moi, avant, pour aller au travail, j'y allais en métro, ça me prenait 1h10 par jour. Maintenant, j'y vais à pied, ça me prend 1h30. Et je trouve que ces 20 minutes valent. Je suis venu ici à cette émission, j'arrive de la gare de Lyon. J'aurais pu arriver à midi, prendre le métro. Je suis arrivé à 11h et je suis venu à pied. Il y a plein de moyens de gratter au cours du quotidien 200-300 calories sur les dépenses. Et franchement, ça fait, quand vous les cumulez de jour en jour, ça finit par faire beaucoup.
Cécile Lestienne.
Oui, moi j'aurais voulu rebondir sur ce qu'a dit Thériault justement. Effectivement, on comprend que les mères peuvent avoir peur que leur enfant manque, mais est-ce qu'il n'y a pas l'inverse aussi, cette idée qu'il faut impérativement donner des intervalles réguliers? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas? Est-ce que ça n'induit pas aussi du stress dans l'autre sens?
Mais les intervalles réguliers, c'est une invention culturelle du dernier siècle. Avant, ça n'existait rigoureusement pas. Ça a été inventé dans les années 1880 par un certain nombre de pédiatres, en particulier d'un pédiatre néo-zélandais qui disait « si on met des intervalles réguliers et qu'on les règle très vite, les bébés pleureront moins ». C'est parti de là. Et c'était un message tellement, tellement révolutionnaire qu'il a été anobli par la reine d'Angleterre pour avoir dit ça, ce monsieur. Donc, vous voyez, c'est stupéfiant. Et après, pendant à peu près un siècle, on a dit, ce chaos initial des bébés, cette façon de pas avoir de rythme, de pleurer n'importe quand, de se réveiller n'importe quand, de manger n'importe quand, on va le réguler et ils iront mieux. Puis on s'est aperçu que c'est pas vrai du tout. Mais c'était effectivement culturellement construit.
Michel Desmurger, on peut faire rapidement changer nos habitudes à notre cerveau, justement, sur les habitudes alimentaires, les goûts que nous avons aussi. Hein, vous dites que ça change très très vite, vous qui détestiez les brocolis, je crois que vous arrivez à en manger maintenant. Ah, ça, c'est un message fort qu'il faut faire passer.
Non, mais c'est vrai que nos habitudes alimentaires, sont, comme les maritériens, sont très ancrées dans l'enfance. Malgré tout, il y a un certain nombre d'études récentes qui montrent qu'on peut agir dessus, on peut les changer. Mm-hmm. On peut les changer dans un laps de temps relativement raisonnable, en 2-3 mois. Il y a des études qui montrent, par exemple à l'IRM ou en neuroimagerie, qui montrent que quand on vous supprime un type d'aliment, par exemple les aliments très sucrés, en sucre raffiné, au début vous avez une réaction extrêmement intense, des systèmes d'appétence. Et puis au bout d'un moment, vous avez moins de réactions. En gros, on mange ce qu'on aime. Mais je dirais qu'au niveau des études de neuroimagerie, ce qui est récent, ce qui nous montre, c'est qu'on finit par aimer ce qu'on mange.
Oui.
C'est-à-dire que si vous mangez au fur et à mesure, si vous supprimez un certain nombre d'aliments particulièrement obésigènes, au début, vous aurez un petit manque.
Voilà.
Et puis petit à petit...
En introduisant d'autres aliments,
vous aurez un goût plus développé pour les autres. Donc oui, on peut changer ses habitudes.
Jean-René nous demande ceci. Décrivez-nous, monsieur Desmurgés, ce que vous mangez. Quelle est votre journée type? Alors, ben oui, ça nous intéresse quand même, concrètement. Alors, sur les dernières minutes qui nous restent... La vie d'un démurgé, ça ressemble à quoi quand on veut plus reprendre du poids?
Ben c'est plutôt sympa. Déjà, je vous l'ai dit, je vais bosser à pied.
Ouais.
Donc déjà tous les jours, je marche. J'ai une consommation calorique relativement importante quand je me dépense physique. Deux fois par semaine, je vais faire du sport.
Et votre assiette?
Mais mon assiette, je mange normalement. Alors
vous mastiquez beaucoup ou pas?
Oui, j'essaye de manger plus lentement.
C'est
un facteur important. J'essaye de prendre des petites assiettes. J'essaye de pas me resservir.
La taille des assiettes est très importante.
J'ai essayé de me conformer à ce qu'on sait. Il y a des aliments, les légumes, les fruits. Enfin, il n'y a pas de secret. Les légumes, les fruits, les féculents. J'essaye d'éliminer les aliments particulièrement obésigènes. Et voilà. Mais il n'y a pas de restriction massive ni de refus de certains aliments.
Enfin, vous avez quand même dit qu'il fallait enlever le croissant tous les jours, tout à l'heure.
L'équivalent d'un croissant.
Marie Thirion, pour terminer.
Vous voulez quoi?
Vous souhaitiez intervenir, me semble-t-il, sur ce que disait Michel Desmurgés juste avant.
Non, je crois que sur la façon de manger, je suis 100% d'accord. On ne peut pas ne pas l'être. Un régime de type méditerranéen, limité en quantité, mais très très modérément, et bouger quand on peut, c'est évident que c'est la
vous
solution.
Vous parlez des micronutriments aussi?
Oui,
ils
mais
sont
dans une alimentation équilibrée, ils y sont.
Mmh.
Donc si on mange vraiment de tout et qu'on ne se précipite pas sur d'énormes rations de protéines animales, d'énormes rations de graisses, surtout des graisses saturées ou trans, évidemment qu'on va les trouver, ces nutriments. Donc après, on est sur des règles d'hygiène alimentaire qui sont déjà très bien connues.
En tout cas, on va se retrouver en septembre, Marie Thirion, pour une autre émission autour de ce thème de la faim, parce qu'on voulait aller plus loin aussi en votre compagnie autour de ce sujet. Votre livre, lui, est paru aux éditions Albin Michel, Pourquoi j'ai faim. Et puis Michel Desmurgés, donc ça vient de sortir chez Belin. Et les bonnes feuilles sont dans Cerveau et Psycho. On peut donc la trouver en kiosque en ce moment. Et puis l'anti-régime, Maigrir pour de bon, c'est donc chez Belin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans La Tête au Carré. Taille de guêpe, Fabrice Drouel avec nous dans ce studio pour son émission tout à l'heure à faire sensible.
Oh, je vous annonce le programme avec une certaine gourmandise, l'histoire du film Les Valseuses de Bertrand Blier, et notre invité c'est Bertrand Blier, il est juste dans le studio d'à côté, il nous attend.
Filez le rejoindre, à tout à l'heure.